The French Connection.
Bonjour tout le monde et bienvenue à l'épisode 256 de la French Connection. Cette semaine, un épisode spécial avec Mina Shinoda de Planet Oster. Salut Mina.
Bonjour Patrick.
Hey, content de t'avoir avec moi. Donc cette année, Planet Oster sera parmi nous au Hackfest, donc ce jeudi soir pour le cocktail d'ouverture. Vous pouvez venir parler à Mina et son équipe. Donc aujourd'hui, on va parler un peu sujet intéressant, puis même un que j'avais même pas vu passer, les attaques DDoS. Fait que je te laisse un peu nous introduire ça, mais d'un côté, on parle de Cloudflare, de l'autre, on parle même du gouvernement fédéral au niveau du Canada. Donc, qu'est-ce que tu as vu à ce niveau-là?
Effectivement, Patrick, dernièrement, le gouvernement du Canada a lancé une alerte ou une notification d'information indiquant qu'il y aura une augmentation des attaques DDoS sur les infrastructures canadiennes. Et c'est quelque chose qu'on suit de près. En parallèle, on a aussi vu quelques rapports de Cloudflare indiquant qu'ils ont bloqué une attaque assez importante dernièrement, une attaque de 3 Tbps, quelque chose quand même conséquent sur
le marché. Ouais.
Ça peut paraître énorme en termes de bande passante, mais je rajouterais aussi le nombre de paquets par seconde pour les experts. C'est quelque chose qu'on voit rarement là, dans le marché. Et c'est quelque chose qu'il faut aussi être prêt. Donc, imaginons, si on est une PME et qu'on reçoit ce type d'attaque, peut-être pas nécessairement ces capacités-là, mais juste quelques centaines de gigs par seconde avec... c'est quelque chose qui va bloquer l'activité de la PME et avoir des pertes de revenus. Donc, c'est quelque chose qu'il faut quand même préparer à l'avance et ça arrive de plus en plus fréquent. Voilà.
Puis, quand on parle de l'alerte du gouvernement du fédéral, dans le fond, eux disent qu'ils en voient beaucoup présentement ou que tu disais ça s'en vient, puis c'est principalement les grands pays comme la Chine et autres. Là,
c'est sûr qu'on mentionne effectivement la Chine. On est quand même à l'approche de quelques tensions ou dans le passé, il y a eu des tensions particulières géopolitiques. Mais ce qu'on voit sur le marché, c'est que tout ce qui est IoT, on le sait très bien, là, les firmware, tout ça sont pas nécessairement maintenus. C'est bien beau d'avoir des frigos connectés, mais est-ce que la mise à jour logicielle est effectuée? Est-ce que ces systèmes-là sont vulnérables? Honnêtement, je pense que oui, c'est vulnérable. On le sait très bien là, avec la quantité d'électronique qu'on gère de systèmes. Effectivement, il y en a qui sont vulnérables. Et donc, quand on rassemble la majorité de ces éléments, ces dispositifs-là qui sont connectés sur Internet, ça permet de constituer des botnets assez importants. Et par la suite, quand on parle de DNS amplification, d'autres types de possibilités d'amplifier les attaques, eh bien oui, on peut arriver avec des attaques de 3 à 4 Tbps. Ce que je veux apporter, c'est que effectivement, depuis 2015, Planet Oster a développé ce système anti-DDoS. Et on voit aussi, on l'a amélioré avec le temps. On a subi des dizaines ou même des centaines d'attaques. Encore aujourd'hui, certains de nos clients sont la cible d'attaques. Et ce qu'on a décidé dernièrement, parce que notre objectif ou notre mission chez Planet Oster, c'est d'accompagner notre clientèle en ligne, de les accompagner dans leur succès, mais aussi les protéger contre la menace qui arrive. Et donc, graduellement, on a constaté que les entreprises, les PME qui possèdent un réseau donc avec un IS number, des IP qui leur est propre ou simplement qui ont un fournisseur de transit, ils ne sont pas nécessairement prêts à bloquer des attaques DDoS au-delà de la capacité des transits qu'ils ont. Donc ce qu'on a décidé, c'est de mettre sur le marché le service qu'on a développé à l'interne depuis 2015, qui a été testé et prouvé, offrir à ces entreprises-là de souscrire à notre service de protection anti-DDoS. La façon dont ça fonctionne, c'est que Planet Oster devient le fournisseur de transit inbound et à partir de là, on est en mesure de bloquer les attaques pour eux et d'envoyer uniquement le trafic qui est nettoyé finalement pour qu'il n'y ait aucune perturbation. On sait très bien que bientôt, la période de Noël qui arrive, la période des ventes, des boutiques e-commerce, c'est quelque chose qu'il faut être quand même prêt à mitiger si jamais on est victime d'une attaque. Donc, Ça, c'est un service qu'on offre, mais ce n'est pas nécessairement notre priorité. Notre priorité aujourd'hui, c'est de sensibiliser un peu le public. Effectivement, les DDoS sont à la hausse et on a la capacité à Montréal de mitiger ce type d'attaque. Ce qui est assez. Nous, on est un acteur un peu plus régional. Donc, on cible le marché de Montréal, le marché du Québec, et on offre ce service d'anti-DOS uniquement au Québec et non nécessairement au reste du Canada.
OK. Puis quand on parle que ces entreprises-là sont sous attaque, c'est quel type de DOS que vous voyez généralement? Est-ce que c'est plus au niveau vraiment réseau, amplification, des requêtes ou on tombe même au niveau applicatif? Est-ce qu'il y a une tendance ou.
C'est sûr que c'est une bonne remarque, Patrick, et il faut distinguer la couche Layer 3, Layer 4 et la couche Layer 7, qui est plutôt une couche, surtout la couche Layer 7, une couche applicative, et là, il y a une panoplie d'attaques possibles, et c'est là où on parle de cybersécurité. Nous, on qualifie la Layer 3, Layer 4 comme cyberdéfense, parce que c'est la première couche où le. C'est sûr que quand on parle de protection, il faut toujours réduire la surface d'attaque. On peut la réduire. Mais la Layer 3, Layer 4 reste la porte d'entrée. Et c'est là où notre offre ou notre protection à la clientèle arrive. Alors, ça nous permet de filtrer des attaques de type SYNFLOOD, et ainsi de suite, des paquets qui sont pas nécessairement le résultat final sur l'application, qui est la couche Layer 7, mais uniquement le trafic, envoyer un trafic nettoyé. Et par la suite, effectivement, des équipes de cybersécurité un peu plus avancées vont pouvoir aider la PME à protéger contre toutes les cyberattaques qui couchent un peu à la couche applicative, qui touchent un peu au système, l'hameçonnage, ainsi de suite. Donc, nous, on se spécialise uniquement à la couche Layer 3, Layer 7, qui est la bande passante entrante, les transits, la porte d'entrée des réseaux PME. Voilà.
Excellent. Puis c'est sûr que quand on parle plus local, ben, entreprise Montréal et région de Québec, évidemment, le sujet qui est discuté depuis les dernières années, c'est la loi 25. Ça ressemble à quoi de votre côté, l'impact de cette loi-là? Comment vous pouvez aider nos organisations avec ça?
On est en faveur de cette loi parce qu'elle permet la protection des données, puis ça vient rejoindre aussi nos valeurs à l'interne, qui est la confidentialité des données, bien sûr. Ce qu'on observe dans la loi 25, c'est que certaines PME semblent mettre les montants ou les semblent, ouais, effectivement, ils mettent les montants au niveau des frais légaux. Donc, par exemple, ils vont demander à un avocat de préparer tout ce qui est termes d'utilisation, tout cela. Et de l'autre côté, côté TI, ils vont garder peut-être un hébergement partagé conçu pour servir un particulier et sa messagerie. Donc, c'est un peu deux poids, deux mesures. Et on veut simplement rapporter, indiquer qu'il faut aussi choisir côté TI les solutions d'hébergement qui sont adaptées à l'organisation. Donc, c'est bien de payer peut-être 150 $ par année pour une petite offre d'hébergement de site web. Mais si de l'autre côté, on paye 500, 600 $ de frais légaux, par la suite des milliers de dollars en cyberassurance, peut-être qu'il faut commencer à la base de choisir peut-être des offres qui sont ajustées, des offres par exemple dédiées, avec des bonnes protections. Et par la suite, la couche assurance, la couche légale peut se rajouter. Mais on ne peut pas faire l'inverse. C'est pour ça que je voulais en discuter aujourd'hui, là, de bien mettre l'argent là où il faut. Je donne un exemple, un magasin. Si on veut le protéger physiquement, c'est bien de mettre les bonnes serrures, les biens. Et par la suite, on souscrit une assurance anti-vol. Et non, une bonne assurance anti-vol et on laisse la porte vulnérable. Voilà un peu le message.
Ça fait bien du sens, mais je veux dire, c'est sûr que c'est un défi pour les PME n'ayant pas toujours l'expertise. Mais on se comprend bien, ça c'est certain.
C'est là où le Hackfest permet de mettre la lumière là-dessus, rapporte beaucoup d'éléments positifs. Et je pense qu'il y a une panoplie d'experts au Hackfest qui rapportent des éléments qui sont très pertinents. Et j'encourage effectivement tout le monde qui a la chance d'y assister de venir faire un tour.
Oui, tout à fait, tout à fait. Un autre sujet de ton côté, puis ça est intéressant parce qu'il y a vraiment un impact pour les organisations qui hébergent leur infrastructure. Puis ça n'a pas vraiment été discuté beaucoup, là, mais il y a eu l'achat de VMware par une organisation. Puis vous dites que le prix a augmenté de 300% en lien avec ça, ou à peu près. Fait que là, on se retrouve évidemment à avoir beaucoup de personnes qui vont migrer vers de l'open source. Là, c'est ça que je comprends.
Nous, on a toujours été en faveur des solutions open source. Bien sûr que les PME, avec des ressources parfois limitées, veulent un code fermé, veulent un support. On essaie d'expliquer que c'est ce qu'on peut faire avec des systèmes open source. Donc actuellement, effectivement, VMware, où la tarification a augmenté de façon massive, nous, on est en mesure de migrer cette clientèle-là vers des private cloud basés sur OpenStack et Ceph, avec des ports quand même publics de 100 gigs. Donc, c'est pas rien. Des fois, on essaie de tout faire à l'interne. Des fois, on essaie de... Mais il y a quand même des rabais de volume que les clients peuvent bénéficier lorsqu'ils souscrivent à quelque chose avec Planet Hoster. Donc, il faut peser le pour et le contre. C'est sûr que là, au côté monétaire, 300% d'augmentation de frais de licence. Certains ont encore renouvelé pour un an ou deux, là, mais ils vont probablement sentir la pression financière d'explorer d'autres types de solutions. Et on indique qu'on est prêt pour les assister dans cette migration, dans ce déplacement, dans ce choix décisionnel. Et effectivement, des private cloud open source, ça permet de garantir au moins ce qui... En fait, côté finance, ça revient à comme si on était en on-premise. Donc, on prend le coût du hardware, le coût des maintenance, et nous, on les met probablement sur 5 ans. C'est amorti sur 5 ans. Donc, côté finance, c'est très abordable. Et dans des PME, c'est facilement... on peut facilement projeter cela dans les états financiers. Tandis que quand on a des coûts de licence qui sont multipliés par, quand ils augmentent de 300%,
ouais.
C'est difficile à projeter dans le futur et ça crée de l'instabilité, ça crée c'est de l'incertitude. Et aussi la devise, n'est-ce pas, c'est, nous on facture en dollars canadiens, lorsqu'on souscrit des fois à des licences externes, c'est des dollars US, on sait que le dollar US a quand même monté à travers les derniers mois, les dernières années, ça a un impact non considérable sur le cash flow, finalement, les ressources financières des PME.
Ouais, c'est sûr que ça a un impact, surtout pour les plus petites entreprises, là, si ça varie à long terme, c'est sûr que c'est pas toujours facile à gérer. Puis un des sujets qui est souvent discuté au Québec, surtout le gouvernement et certaines entreprises, c'est où est-ce que nos données sont hébergées. Tout ce qui est souveraineté des données, comment ça fonctionne de votre côté? Est-ce que vous avez un data center local ici ou comment vous fonctionnez?
À la base, Planet Hoster est une entreprise québécoise, a été créée en 2007 et on a initié l'hébergement à Montréal. Donc les centres de données sont à Montréal. Bien sûr, on a des redondances stratégiques, donc c'est pas uniquement un seul centre qui va servir le tout, il y en a plusieurs et les centres se situent à Montréal. Donc là-dessus, on garantit à notre clientèle que la confidentialité des données et la localisation est bien Montréal, Québec, Canada. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que en tant qu'hébergeur de données, on n'est pas nécessairement une solution info-nuagique. Ce que ça veut dire, qu'on ne consulte pas les données qui sont sur nos infrastructures. La majorité des données sont chiffrées. On les utilise pas à autre objectif. On n'y a juste pas accès. Et ça, c'est quelque chose que souvent, il y a de la confusion entre des solutions info-nuagiques. On n'a pas... notre avantage principal est que, par exemple, si une entreprise choisit Planet Hoster pour ses courriels, on n'a pas de système AI qui va scanner tout le contenu des courriels pour offrir des promotions plus tard ou analyser ou projeter le besoin. Donc, il y a cette isolation complète de confidentialité. C'est une valeur essentielle chez Planet Hoster, on va la conserver. On va même jusqu'à déchiffrement au niveau des disques durs. Et bien sûr, on a des procédures... on suit toutes les normes de sécurité pour la protection physique et digitale des données.
Très, très bien. Puis, en termes de sécurité, là, je sais pas si c'est quoi la réponse d'avance, mais est-ce que vous cherchez du monde pour travailler en sécurité? Ça ressemble à quoi la grandeur de votre entreprise, vos équipes de sécurité, etc.? Parce que vous allez être au Hackfest, puis il y en a beaucoup qui vont être là pour ça.
C'est sûr qu'on est toujours à la recherche de talent, on est toujours à la recherche d'expertise. Donc, au plaisir de rencontrer, de vous rencontrer lors du Hackfest, bien sûr. Je donne un exemple. Tous les systèmes doivent toujours être maintenus, être optimisés, être améliorés. Donc, c'est sûr que on aura besoin de cette aide extérieure et de ces talents. Et bien sûr, on reste toujours humble parce que tout ce qui est sécurité, il y a toujours quelque chose qui est amélioré. Et c'est pour ça qu'on reste humble et à l'affût des dernières nouveautés et des talents, bien sûr.
Ouais, c'est un domaine qui arrête jamais, finalement. C'est un processus humain, fait que c'est à temps plein. Hein?
Je suis tout à fait d'accord avec ça. Lorsqu'on est exact. Un hébergeur qui offre un service 24 sur 24, 7 jours sur 7, je comprends parfaitement que ce soit en cyberdéfense, cybersécurité, c'est quelque chose qui n'arrête jamais. Et c'est quelque chose qu'on essaie d'expliquer aussi aux autres entreprises qui font du 9 à 5, que nous, on est là pour les protéger quand ils vont aller dormir et ils peuvent dormir tranquille. Voilà.
Excellent. Donc, on a bien hâte de vous voir au Hackfest. Est-ce que c'était ta première participation?
Ce sera la première participation pour moi personnellement. Mais le Hackfest est quand même connu et a une bonne réputation à travers les dernières années. Donc, bien hâte de rencontrer tous les experts, les visiteurs et tous les gens qui y participent, bien sûr.
Super. Et merci beaucoup. On est très hâte de vous voir là. Puis à tout le monde qui écoute, allez regarder l'horaire du Hackfest parce que cette année, on vous a gâté. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui se passent là. Fait que même de ton côté, Mina, oublie pas de regarder ça. Ce qui est le fun cette année, c'est que le vendredi, au cocktail d'ouverture, cocktail d'ouverture, on rajoute une petite présentation sur comment participer au Hackfest. Fait que le genre de Hackfest 101 qui sera vers 8h, si je me trompe pas, là, après quelques heures dans le cocktail. Puis le vendredi, habituellement, ça finit à 6h, il y a un CTF, mais là, ça finit très tard la nuit. Il y a des conférences de soir, il y a des workshops. Puis Mina, vu que c'est ta première fois, tu le sais pas, mais on a une tradition d'avoir un village poutine au Hackfest depuis peut-être 6-7 ans. Donc, vendredi soir vers 9h, suivez l'odeur pour trouver où est la poutine. c'est une vieille tradition d'un de mes amis qui a commencé à faire ça dans sa propre chambre d'hôtel et qui est devenu un peu plus gros. Fait qu'aujourd'hui, c'est officiellement là, la nourriture du centre des congrès. Puis ça a déjà été un food truck en dehors d'un hôtel. Fait qu'il y a beaucoup d'histoires entourées à ça. Fait que, ouais, durant la soirée du jeudi, le podcast sera là. Si tu veux venir nous voir, du vendredi soir, le podcast sera là à 9h en même temps que la poutine. Fait que si ça tente de venir nous voir pour redire un petit mot sur le podcast, gêne-toi surtout pas.
C'est une belle édition qui s'annonce. Cocktail d'ouverture Planet Toaster, par la suite plein d'activités et poutine vendredi soir. Ça semble à ne pas manquer.
Yes, exact. Puis ça finit avec un show rock, metal, électronique samedi à 20h. Ouais, ouais, ouais. On a déjà eu des shows de musique, mais c'était très, très petite envergure. Celle-là devrait être quelque chose d'intéressant. Donc, viendrez voir ça. Il y a plein de CTF, plein de vendeurs, plein de kiosques, plein de monde à parler, évidemment. Donc, on vous voit tout le monde là, puis on se revoit dans quelques jours, Mina. Merci, merci beaucoup pour ton temps, très apprécié. Yes.
Bye bye.
Bye tout le monde.